Bonjour à toutes et à tous. Je ne voulais pas interrompre notre ami, c'est pour ça que j'étais sagement au fond à l'écouter et particulièrement intéressé par son exposé. Je ne suis descendu qu'à sa demande, mais je l'aurais écouté encore avec beaucoup de plaisir. Donc bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Moi, je ne vais pas être trop long, mais néanmoins vous lancer quelques pistes, quelques propositions. Et puis à partir de là, je pense qu'on organisera l'échange et le débat avec vous. Alors peut-être des propositions en deux temps. D'abord, des propositions un peu générales pour dire pourquoi les écologistes s'intéressent à la question de l'éducation et de l'école et quelle est leur spécificité dans leur manière d'approcher la question de l'éducation et de l'école. Et puis dans un deuxième temps, je dirais d'une manière un peu plus précise quelles sont les propositions que nous développons, que nous versons au débat et pour lesquelles aussi nous militons. Alors, au fond, la question que je voudrais que nous nous posions ensemble aujourd'hui, c'est quelle éducation pour une société plus fraternelle, plus juste, qui pille moins le monde et qui partage mieux, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la culture. Au fond, ce sont les deux questions qui, moi, au cours de mon histoire personnelle, m'ont toujours paru centrales et que j'ai essayé de travailler d'une manière ou d'une autre. La première question, c'est quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? Et la deuxième question, profondément solidaire avec la première, c'est quels enfants allons-nous laisser au monde ? Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ? C'est pas complètement le sujet de ce soir, mais quand même, c'est un sujet essentiel au cœur de notre combat écologiste. Quels enfants allons-nous laisser au monde ? C'est aussi un sujet essentiel au cœur de notre combat écologiste, et ces deux sujets mettent notre combat écologiste dans une perspective claire qui est celle de ceux et celles qui n'ont pas les yeux rivés sur le court terme mais qui regardent vers l'avenir et qui essayent de construire le futur. Alors, quelques principes d'abord, ce sera la première série de remarques. Quelques principes pour une éducation vers une société plus fraternelle et plus écologiste. Le premier principe, et au fond il est tout simple, il est à la base de l'écologie politique même, c'est que si nous vivons aujourd'hui dans un monde fini sur le plan des richesses matérielles, et ça nous le savons, pas depuis longtemps mais nous le savons, nous l'avons compris, alors vous me direz il y a un certain nombre de gens qui ne croient pas ce qu'ils savent, ça c'est vrai, mais pour ceux qui croient ce qu'ils savent, ils savent et ils croient que notre monde est fini et que nous ne pourrons pas continuer éternellement à le piller en faisant comme s'il était infini et qu'au fur et à mesure que nous le pillons, les ressources naturelles se régénèrent automatiquement. Notre monde est fini, oui, mais pour pouvoir habiter ce monde fini, nous disposons de quelque chose d'assez fabuleux qui est la richesse infinie de l'humain, des hommes, des femmes, des enfants. La richesse infinie aussi de la culture, qui a cette capacité extraordinaire de ne pas disparaître ou de ne pas s'épuiser quand on la partage, mais de se multiplier quand on la partage. Contrairement au pétrole, quand on consomme de la culture, on ne l'épuise pas, mais on devient soi-même porteur de culture et capable de la faire partager à d'autres. On enrichit en quelque sorte ce que l'on utilise soi-même. On est dans une relation aux autres qui est une relation qui ne va pas vers moins, mais toujours, et vers le mieux et vers le plus. Partager la culture, c'est l'augmenter. C'est l'augmenter et en faire un réservoir fantastique pour permettre de fonder notre existence collective sur d'autres activités que la consommation effrénée des gadgets les plus sophistiqués ou des biens dont la production coûte les yeux de la tête à nos concitoyens. Oui, c'est vrai, les écologistes veulent tempérer ce que certains chercheurs appellent le capitalisme pulsionnel. Vous savez, le capitalisme pulsionnel, c'est ce troisième âge du capitalisme. Il y a eu le capitalisme industriel, il y a eu ensuite et il y a toujours, malheureusement, le capitalisme financier. Mais il y a aussi, disent un certain nombre de spécialistes aujourd'hui, le capitalisme pulsionnel. C'est celui qui a comme matrice de son fonctionnement la pulsion d'achat. C'est celui qui susurre en permanence à l'oreille des hommes, des femmes, mais aussi des enfants, achète, consomme, toujours plus, tout de suite, immédiatement, parce que c'est dans l'avoir, dans la possession et dans la consommation que se trouve la seule source de tes satisfactions. Eh bien, par rapport à ceux qui prônent ce capitalisme pulsionnel, les écologistes répondent « Il y a d'autres sources de satisfaction. Il y a même d'autres sources de jouissance, et on peut employer le terme jouissance sans avoir à en rougir, plus grandes, plus fortes, plus lumineuses, plus porteuses de bonheur que la pulsion consommatoire, que la frénésie d'achat, que le désir de toujours avoir plus d'objets à soi au détriment des autres. Et cette jouissance, elle est dans le partage, elle est dans la culture, elle est dans toutes les formes de socialité que nous pouvons contribuer à inventer et à faire vivre. Donc oui, les écologistes savent qu'il nous faudra aller, pas d'une manière autoritariste et punitive, mais d'une manière volontaire et sereine vers la sobriété heureuse. Mais ils savent que cette sobriété ne sera heureuse que si précisément nous savons compenser quelques-unes de nos frustrations en termes de pulsions d'achat par un partage plus grand en termes culturels, en termes éducatifs, en termes démocratiques aussi, dans notre capacité collective à réfléchir ensemble et à trouver du plaisir à discuter ensemble pour définir le bien commun. Voilà quelque chose de très fort pour moi, quelque chose de très fort pour les enfants aujourd'hui, quelque chose de très fort, je crois, au regard de ce qui nous entoure et de la façon dont nos enfants sont identifiés, pour l'essentiel, avant d'être des petits humains qu'il faut accompagner et contribuer à développer comme des cœurs de cible potentiels pour une publicité qui n'a qu'un seul objectif, en faire d'eux des vecteurs d'achat pour leurs parents, mais aussi pour eux-mêmes, toujours plus exigeants. Car ne nous y trompons pas, la publicité, c'est bien le triomphe du caprice mondialisé. Et le caprice, c'est bien le contraire de ce que nous formons en éducation, à savoir la volonté. La publicité, c'est le triomphe du tout de suite, tout immédiatement, tout sans condition, tout sans réfléchir. Et contre le tout de suite, le tout immédiatement, tout sans condition et tout sans réfléchir, nous disons un peu, peut-être beaucoup, mais en réfléchissant, en travaillant ensemble, en construisant, en partageant, et en partageant ce que nous avons de plus précieux, c'est les œuvres, la culture, l'éducation, tout ce que les humains ont fait de plus noble et qui, quand on l'utilise, ne s'use jamais, ce qui est une qualité absolument fabuleuse. Ça, c'est, voyez-vous, un point très fort de notre combat écologiste, et c'est la raison pour laquelle les militants écologistes, quand ils parlent d'éducation, ne parlent pas que d'école. Nous allons parler d'école, et beaucoup, mais nous ne parlons jamais que d'école. Nous parlons de cet environnement plus global, nous parlons des médias, par exemple, et de l'usage que l'on peut faire des médias. Nous condamnons un système qui n'a interdit la publicité que parcimonieusement, après 20 heures et sur les chaînes publiques, mais pas, par exemple, le matin, dans le cadre des émissions pour enfants qui sont diffusées avant que les enfants aillent à l'école. Avant que les enfants aillent à l'école. Émissions pour enfants qui sont entrelardées de spots publicitaires, avec même subtilité particulière, une disparition progressive des génériques de fin des dessins animés et des émissions, pour que les enfants ne voient pas la différence entre l'émission et la publicité. Avec même subtilité encore plus grande, une fusion des chartes graphiques, qui fait que ce sont les mêmes chartes graphiques qui sont utilisées dans les dessins animés et dans la publicité, et avec même une fusion des personnages, les publicités réutilisant les personnages des dessins animés pour prescrire aux enfants ce qu'ils doivent acheter et faire acheter à leurs parents. Car n'oublions pas que 43% des produits de consommation courante sont prescrits aux parents par les enfants. 43%. Et n'oublions pas que le matin, avant d'aller à l'école, un enfant sur trois à un enfant sur deux, les statistiques disent entre 30 et 45% des enfants en âge primaire, consacrent 20 minutes à 2 heures à regarder la télévision. Alors 20 minutes pour quand on débarrasse simplement le petit déjeuner, 2 heures pour des enfants qui se lèvent avant leurs parents pour regarder la télévision, et pas à n'importe quel moment, à un moment où psychologiquement l'enfant est dans une situation qu'on appelle d'attention flottante, c'est-à-dire particulièrement disponible, c'est vraiment une part de cerveau disponible, particulièrement disponible aux messages publicitaires. Alors, je donne cet exemple de la télévision pour les enfants le matin, simplement pour illustrer l'idée que l'école, certes, a besoin d'évoluer et qu'il nous faudra investir un effort et de l'argent dans l'école, mais que le monde qui l'entoure a aussi besoin de réfléchir au statut de l'enfant dans le monde, à ce que nous voulons en faire et à la manière dont nous voulons l'éduquer. Je le dis, y compris avec le caractère un peu violent du terme, il y a aujourd'hui certains usages des médias qui sont toxiques pour l'enfant, pour un certain nombre d'enfants, et irrespectueux de textes comme la Convention internationale des droits de l'enfant, pourtant signée par la France il y a plus de 20 ans, qui disent avec beaucoup de précision qu'en aucun cas l'enfant ne peut être utilisé comme un vecteur de prescription pour les adultes, ni faire l'objet d'une publicité ciblée contre laquelle il ne peut pas se révolter, par rapport à laquelle il n'est pas suffisamment formé pour résister. Alors oui, dans ce monde fini, il nous faut penser l'éducation d'une manière globale, penser l'éducation scolaire, penser l'éducation des médias et par les médias et aux médias, penser aussi l'éducation familiale, parce que la France est à cet égard le pays européen le plus à la traîne. Vous savez que c'est le pays en Europe où la question de l'aide à la parentalité et aux parents les plus en difficulté est la moins bien traitée, que nous n'avons pas véritablement de budget sur cette question-là, et que les parents en difficulté sont stigmatisés le plus souvent comme étant démissionnaires quand ce ne sont pas des attaques comme quoi ils seraient psychopathes, voire délinquants, au lieu d'être aidés, d'être accompagnés pour faire face à des questions que la plupart du temps, non pas ils ne veulent pas résoudre, mais qu'ils ne savent pas résoudre. Ils ne savent pas résoudre. On pourrait d'ailleurs développer cette idée de formation à la parentalité et montrer pourquoi elle est absolument essentielle aujourd'hui et pourquoi nous la prenons très au sérieux chez les écologistes. C'est en raison précisément de l'accélération formidable de l'histoire des sciences et des techniques. Au fond, pendant de très nombreuses années, pendant de nombreux siècles même, les parents ont élevé leurs enfants avec les méthodes qu'ils avaient eux-mêmes héritées de leurs propres parents. C'est-à-dire que globalement, quand il y avait un problème, ils se disaient « qu'est-ce que mes parents auraient fait avec moi ?» Chacun arrivait en tant que parent avec un sac à dos plein des recettes que ses propres parents avaient utilisées avec lui. Il y avait des écarts d'une génération à l'autre, mais ces écarts étaient suffisamment ténus pour permettre aux recettes anciennes de fonctionner quand même. Aujourd'hui, les parents qui deviennent parents ont beau fouiller dans leur sac à dos, ils ne trouveront pas la réponse à des questions comme « À quel âge faut-il acheter un téléphone portable et avec un forfait de combien ?»« Qu'est-ce qu'on fait quand mon gamin en cinquième, il est addict devant Internet et qu'il passe des nuits complètes devant World of Warcraft ?» Excusez-moi de la prononciation, c'est un jeu électronique très célèbre en ligne qui est un peu difficile à prononcer. Hein. Ces questions-là, elles figurent nulle part, hein, parce qu'elles sont inédites. Elles sont inédites et il faut aider les parents à avoir des réponses concrètes par rapport à ça, à échanger entre eux sans culpabilité sur ces questions-là, parce que l'éducation, c'est l'école, mais c'est aussi les médias, mais c'est aussi la famille, et j'ajoute, l'éducation, c'est aussi la ville, c'est aussi l'ensemble des dispositifs sociaux. J'habite à Lyon dans un quartier où il y a encore 5 ans, 4 ans même, il y avait un square dans lequel il y avait des jeux pour enfants. Ce square était surveillé par un gardien avec un uniforme et une petite casquette. Ce gardien était là depuis 20 ou 30 ans. Il jouait un rôle tout à fait fantastique pour les enfants. Il les effrayait, mais en même temps, les enfants jouaient un peu avec cette image. Vous savez, il y avait une espèce de jeu de chat à la souris, de gendarme et de voleur. Ils se cachaient, etc. Ce gardien avait un rôle tout à fait essentiel par rapport aux personnes âgées qui étaient là, assises dans le square, et dont il était sans doute le seul interlocuteur toute la journée. Et puis voilà qu'il y a 4 ans, la municipalité a décidé de remplacer ce gardien de square par une caméra de vidéosurveillance. Alors j'attire votre attention sur le fait que le gardien de square a été mis au chômage et qu'il y est toujours. Qu'il n'y a pas un énorme différentiel entre ce qu'on lui paye comme chômeur et ce qu'on lui payait comme gardien de square. Mais qu'il est au chômage, il n'est plus dans le square. Qu'il est probablement un peu dépressif et qui va coûter de l'argent à la sécurité sociale, que par ailleurs, la vieille dame, elle n'a plus personne à qui parler, que les gamins, ils ont certes des caméras de vidéosurveillance pour vérifier qui va casser les jeux, mais personne pour leur dire « Écoute, mon petit gars, c'est peut-être pas très bien de casser les jeux, il vaudrait peut-être mieux que tu réfléchisses et puis que tu les utilises pour jouer ». Comme la caméra de vidéosurveillance est cassée régulièrement, eh bien, il faut la remplacer. Si vous faites la somme des coûts réels, induits par la suppression de ce poste et par son remplacement par une technologie anonyme, et encore, je ne compte pas le salaire de la personne qui est peut-être derrière l'écran de la vidéosurveillance, mais il y a peut-être quelqu'un. Enfin, je suppose qu'il regarde plusieurs écrans et pas un seul. Il faudrait diviser le salaire par le nombre d'écrans. Mais dans tous les cas, le coût réel est infiniment supérieur à l'économie qu'on prétend réaliser. C'est la raison pour laquelle nous disons, eh bien, l'éducation, si elle s'exprime dans la famille, si elle s'exprime dans les médias, si elle s'exprime à l'école, elle s'exprime aussi dans une multitude de choix sur l'organisation de notre cadre de vie, l'organisation de notre environnement, l'organisation de ce qu'on pourrait appeler un écosystème éducatif qui est propice aux échanges, aux liens intergénérationnels, à la réflexion, et qui doit porter l'enfant progressivement vers l'âge adulte. Alors je voulais vous faire cette première remarque, parce qu'elle me paraît importante, et là-dessus d'ailleurs, les écologistes sont assez seuls. Chaque fois que les grands partis politiques français publient une réforme de l'éducation, ce n'est en réalité qu'une nouvelle réforme de l'enseignement scolaire.
Je ne dis pas que ça n'est pas important de réformer l'enseignement scolaire. Mais je dis qu'on ne pourra pas réformer l'enseignement scolaire éternellement si l'environnement éducatif global de l'enfant n'évolue pas. Sinon, nous aurons des enseignants qui auront le sentiment de passer leur temps, de vider l'océan avec une petite cuillère. Quand l'enseignant demande aux élèves d'être attentifs et que par ailleurs les médias fonctionnent sur des séquences de plus en plus courtes, qu'elle détruit l'attention, que l'on détruit l'attention, quand les enseignants demandent de réfléchir et que par ailleurs les médias produisent simplement des surenchères d'effets dont le seul objectif est de scotcher l'enfant à l'écran pour pas qu'il change de chaîne, de le scotcher en tétanisant et en anesthésiant sa liberté de penser, eh bien les enseignants ne peuvent pas considérer qu'on les aide dans leur travail, mais bien au contraire, que le travail éducatif dont ils sont chargés s'inscrit dans une société qui, globalement, d'une manière collective, promeut des contre-valeurs par rapport aux valeurs qu'ils portent, eux. C'est essentiel de penser et de porter cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à la mise en place d'une nouvelle forme de conseil supérieur de l'éducation et non pas de l'école, où siégeraient des représentants à la fois, évidemment, des institutions, l'institution scolaire, l'institution culturelle, l'institution, la protection judiciaire de la jeunesse, etc., mais aussi des représentants des parents, des représentants des artistes, des gens qui travaillent sur les questions éthiques et des gens qui connaissent et veulent faire appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. Et nous sommes favorables à ce que ce Conseil supérieur de l'éducation au sens large ait une capacité d'auto-saisine sur les questions qui lui paraissent essentielles et qui constituent des atteintes à l'impérieux devoir d'éduquer, qui est bien évidemment notre premier devoir à l'égard de ceux que nous faisons venir au monde. Première remarque. Deuxième remarque, quel est notre second principe ? Notre second principe, c'est celui de refuser comme matrice de l'éducation la concurrence, la compétition, et d'activer au contraire toutes les formes de solidarité. Solidarité entre l'homme et la nature, bien sûr, solidarité entre les humains entre eux, solidarité entre les générations entre elles, solidarité entre les peuples et tous les groupes. La solidarité pour nous, c'est le modèle coopératif dans son essence même, opposé à ce que l'on nous vend aujourd'hui comme étant le nec plus ultra de la politique moderne sous le nom d'égalité des chances. Parce que, chers amis, l'égalité des chances, il y a la française des jeux pour ça. Le loto et toute une série d'autres outils de ce type. En matière d'éducation, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'égalité des chances, c'est du droit à l'éducation pour tous. Et cela n'a rien à voir. Quand on me dit que grâce à un internat d'excellence, on va réussir à faire émerger un Einstein dans le 93, et qu'on appelle ça l'égalité des chances, on ne se pose pas la question « Et que va devenir le 93 ?» Non, non, on a fait l'égalité des chances. On a sorti un Einstein du 93 via un internat d'excellence, on a fait notre travail. Tant pis pour les autres. L'égalité des chances est surtout la réalité des malchances. C'est surtout le fait de monter les exclus les uns contre les autres pour que la réussite de l'un d'eux nous exonère de donner le minimum vital aux autres. C'est ça, la réalité de l'égalité des chances. La réussite d'un exclu nous exonère de donner le minimum vital aux autres en matière d'éducation, mais on pourrait tenir le même discours en matière de logement, en matière d'emploi, en matière de culture, etc., etc. Alors non, nous ne sommes pas pour l'égalité des chances. Nous sommes pour l'égalité des droits fondamentaux. Des droits fondamentaux. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour le revenu universel. C'est la raison pour laquelle nous militons pour le droit au logement. C'est la raison pour laquelle nous militons pour le droit à un environnement et à une nourriture saine pour chacune et pour chacun. Oui, nous considérons que ces droits-là sont des droits inaliénables, sont des droits fondamentaux et que ces droits doivent être réalisés d'une manière volontariste. Parmi eux, il y a le droit à l'éducation pour tous, au moins jusqu'à la fin de la scolarisation obligatoire, une scolarisation obligatoire à laquelle il faut redonner du sens en faisant l'outil essentiel de la construction d'une citoyenneté solidaire pour chacun et pour chacune. C'est le deuxième élément, le deuxième principe auquel nous tenons et qui travaille toutes nos propositions. Le troisième élément essentiel sur lequel je voudrais dire un mot que j'ai déjà un tout petit peu abordé, mais je voudrais ici le préciser, c'est notre souhait à nous autres écologistes, à ceux et celles qui travaillent dans cette perspective, de résister à l'accélération absolue dans laquelle nous sommes, de résister à la toute-puissance de l'immédiateté pour installer du temps pour parler, pour penser, pour échanger. Nous pensons que le rapport des hommes au temps est quelque chose d'absolument fondamental et que nous vivons actuellement une mutation assez terrible qui nous vole notre temps et qui nous enferme dans une consommation compulsive de nos segments de vie, nous rendant en quelque sorte incapables de prendre le temps de penser, de réfléchir, d'engager des relations sereines et pacifiées avec les autres. Nous pensons à cet égard que parmi ces fonctions fondamentales, il faut affirmer que l'école doit être un espace de décélération. De décélération. La décélération, c'est la possibilité de penser dans un cadre le plus serein possible, dans un cadre le plus capable de laisser l'être humain, le petit être humain qui se construit, accéder aux objets de savoir et à partir de là, se construire lui-même comme sujet. Installer des temps de décélération est aujourd'hui pour nous une urgence. Urgence pour éduquer nos enfants, urgence pour respirer nous-mêmes un peu et ne pas être en permanence malmenés dans cette société où tout va trop vite, urgence pour se donner ensemble les moyens de construire des collectifs de partage et de décision. Parce que le partage de la culture et la décision sur le bien commun nécessitent du temps. Que bien sûr on a tendance à prendre ce temps comme du temps perdu, mais que nous pensons nous autres que ce n'est pas du temps perdu, que c'est du temps gagné. C'est du temps gagné pour l'humain contre la machine. Et je voudrais conclure ces quelques principes fondamentaux, je pourrais parler longuement et encore sans doute jusqu'à demain matin avec vous sur ces questions, par un point important à mes yeux, qui m'apparaît de plus en plus vrai chaque jour quand je discute avec des enseignants, des éducateurs, mais pas seulement, avec tous ceux et celles qui tentent de continuer à faire vivre le service public. C'est la façon dont, aujourd'hui, nous devenons en quelque sorte progressivement les esclaves des outils au lieu d'utiliser les outils pour notre liberté. Vous savez, c'est au fond là la définition que Marx donnait de la prolétarisation. Qu'est-ce qu'il disait Marx ? Il disait, à partir d'un certain moment, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'ouvrier, il transfère en quelque sorte son intelligence à la machine. C'est plus la machine qui est au service de l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui est au service de la machine. L'ouvrier, il est là pour faire marcher les machines. Et moi, qu'est-ce que j'entends parfois chez certains enseignants, chez certains éducateurs ? Nous sommes là pour quoi ? Pour faire fonctionner les systèmes nationaux d'évaluation ? Nous sommes là pour quoi ? Pour faire fonctionner des outils qui nous sont imposés, qui ont un caractère profondément hégémonique et qui nous ont effectivement prolétarisés, c'est-à-dire qui nous empêchent de réfléchir ensemble, de travailler collectivement, parce que nous n'avons que cette obsession de l'outil. L'obsession de l'outil nous fait oublier l'immensité du chantier et l'importance des enjeux. Et cette obsession de l'outil, eh bien, elle nous renvoie à ce contre quoi les écologistes sont vent debout depuis toujours, c'est cette conception étroite du scientisme censée résoudre tous les problèmes par une sorte de sophistication sans fin de l'ordre du technologique au détriment de la confiance dans l'humain. Alors, j'étais un petit peu long, donc je vais passer rapidement. Ça, c'était que ma première partie, donc vous allez voir. Je vais aller très vite sur la deuxième parce que vous voulez passer au débat. Alors, d'accord. Sur la deuxième, je vais aller très vite parce que ce sont des choses relativement plus connues, plus simples et plus évidentes. À partir de ces principes-là, parce que je n'ai énoncé pour le moment que des principes, quels sont les axes pour une école, et je n'ai pas parlé vraiment encore d'école, auxquels nous sommes attachés et que je vous propose de mettre en débat. Ce sera la transition avec le débat. Premier axe, nous défendons le service public. Nous défendons le service public et nous disons que l'école est un service public. À ce titre, il participe du bien commun et il n'est pas réductible à la somme des intérêts individuels et nous ajoutons ce qui est le plus difficile, des intérêts individuels, fussent-ils légitimes. Nous disons, un service public, c'est ce qui défend le bien commun contre les intérêts individuels, fussent-ils légitimes. Dès lors que ce bien commun est construit par tous, dès lors que ce bien commun est voulu par tous. Nous considérons qu'il y a eu une mise à mal du service public, avec des formes de privatisation larvées, rampantes et d'autres plus ouvertes. La suppression de la carte scolaire en est une, c'est une forme de privatisation. L'organisation de la concurrence entre les établissements, voire entre les professeurs et entre les recteurs qui sont maintenant payés au mérite, en est une également. Tout ceci nous paraît préoccupant parce que l'idée d'une institution collective visant le bien commun de tous finira, si on continue, par passer à la trappe. Deuxième idée très simple, nous défendons l'école comme cadre éducatif. Cadre éducatif, ça veut dire que nous pensons que si on travaille sur l'école, il faut travailler sur l'architecture scolaire, sur le temps scolaire, sur l'organisation matérielle de la classe. Nous pensons qu'il faut travailler sur ce qui se passe à la cantine, ce qu'on y mange et la manière dont on le mange, ce qui se passe dans la cour, ce qui se passe dans les espaces qui sont au bord de l'école, parce que tout cela contribue à faire de l'école un lieu serein, pacifié, où on peut apprendre, ou bien cela, au contraire, n'y contribue pas. C'est un point tout à fait important. Face à ce qu'on pourrait appeler une dilution, voire un avachissement de l'institution, qui n'est plus que constituée dans certains collèges, entre guillemets, difficiles ou sensibles, que par des grappes d'élèves indifférenciés, qui se précipitent d'une classe à l'autre au rythme de sonneries stridentes, sans prendre le temps ni d'enlever leur manteau, ni de sortir leurs affaires de leur catame entre deux heures de cours, et qui ne se sentent pas dans un lieu qu'ils peuvent habiter, où ils peuvent être accueillis et où ils sont bien pour apprendre. Alors ça peut paraître anecdotique, mais nous disons que par exemple, la civilité précède et conditionne la citoyenneté. La civilité, c'est des choses simples, c'est se dire bonjour, se dire au revoir, être dans un espace où on connaît les gens, où on les identifie, où on peut vivre collectivement ensemble. Tout ceci, ça fait partie des cadres et du cadre que nous pensons qu'il faut contribuer à construire. Troisième élément, service public, cadre, une école centrée sur, bien sûr, l'élève, pas l'élève et ses caprices, mais l'élève qui apprend. C'est-à-dire une école faite pour que l'élève apprenne mieux. Une école qui sait construire des rituels d'apprentissage, parce qu'on n'apprend pas sans rituel et on ne structure pas un collectif humain sans rituel. Une école où l'on ne vient pas simplement pour passer le temps, mais réellement pour apprendre et pour progresser. Et pour progresser. C'est essentiel, cette idée de progrès. C'est ce qui nous fait remettre en cause certaines formes d'évaluation qui ne sont pas faites pour faire progresser les élèves, mais pour photographier à l'infini un niveau sans être sûr que l'élève a bien les moyens d'améliorer ce niveau. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le souhaitez. Quatrième idée à laquelle nous sommes très attachés, c'est le fait de promouvoir à l'école des collectifs, des équipes de professionnels capables de travailler ensemble et de prendre en charge ensemble, d'une manière solidaire, des collectifs d'élèves. Alors on a dans notre projet une formulation qui peut paraître un peu barbare, puisqu'on est pour ce qu'on appelle des unités pédagogiques fonctionnelles, de 100 à 120 élèves. Alors ça peut paraître barbare, c'est tout simple et c'est tout bête. C'est quelque chose qui a été étudié depuis très longtemps maintenant par les chercheurs. Globalement, si on prend un élève de 6e ou de 5e, on sait qu'au-delà de 100 à 120 personnes, le groupe est trop important pour lui pour qu'il s'y retrouve et s'y reconnaisse. Et on sait que l'élève de 6e, s'il a 10 professeurs, il faut qu'il puisse les rencontrer en même temps et les voir en même temps avoir une parole commune. On sait également qu'il faut que ces 10 professeurs aient eux-mêmes les 120 mêmes élèves de 6e, qu'ils ne soient pas écartelés entre une multitude de classes, pour qu'ils puissent, avec ces élèves, leur proposer des activités adaptées, qui peuvent être des activités en grand groupe ou en petit groupe, en monitorant, en tutorat, en entraide, que sais-je encore. Nous sommes très sensibles à cette idée d'unité à taille humaine, encadrée par des équipes d'adultes solidaires qui travaillent ensemble. C'est, nous semble-t-il, non pas ce qu'il faut imposer autoritairement, mais ce qu'il faut accompagner pour que ça émerge progressivement dans les établissements et que ça se substitue à ces établissements trop lourds où tout est segmenté, tout est disjoint, où les élèves ne savent plus vraiment qui sont leurs interlocuteurs parce qu'il n'y a pas un collectif d'adultes face à eux qui leur apporte une parole et qui tienne debout pour les faire tenir debout. Cinquième élément auquel nous tenons beaucoup, c'est l'articulation des différents segments de l'école et en particulier de ce que nous appelons l'école fondamentale. Nous pensons que le collège n'a pas suffisamment été pensé et qu'il a oscillé en permanence entre un prolongement de l'école primaire et une anticipation du lycée, sans connaître clairement dit quel était son statut. Nous militons pour une continuité dans cette école fondamentale de 6 à 16 ans, sans exclusion, sans sélection, continuité qui permette d'accompagner tous les élèves vers les fondamentaux de la citoyenneté. Sixième idée, évidemment, cela ne sera possible que si on travaille à la fois avec les familles et avec le territoire. Nous pensons, et c'est une de nos conviction écologiste fondamentale, que rien n'est un isolat, hein, comme ça, et que s'il faut des murs et des règles internes, il ne faut pas pour autant couper complètement l'école de son environnement, et en particulier de ce qui, dans son environnement, peut lui permettre de se nourrir et d'avancer. Nous pensons qu'il faut des écoles ouvertes sur l'art et la culture de l'environnement, mais aussi sur l'artisanat, sur l'ensemble du bassin de vie, avec des possibilités de travail collectif, un accueil des familles qui ne se sentent pas en permanence sur un strapontin, mais qui soient prises au sérieux, entendues, ce qui ne veut pas dire qu'on fait ce qu'elles demandent. Entendre n'est pas s'exécuter, mais c'est un premier pas et c'est évidemment tout à fait essentiel. Le rapport au territoire est quelque chose à quoi nous tenons beaucoup. C'est aussi une des raisons qui nous font militer pour le maintien des écoles rurales, même avec des petits effectifs, parce que nous croyons que ces écoles rurales jouent sur les territoires un rôle absolument essentiel, qu'elles permettent sur ces territoires des rencontres entre les générations, et qu'on pourrait d'ailleurs parfaitement, dans ces locaux qui souvent sont à moitié vides, faire aussi d'autres types d'activités, en particulier ouvertes aux adultes, en matière de formation continue par exemple. Septième élément, rapidement, nous pensons que tout cela ne sera possible que si l'on remet debout la formation des enseignants. Formation initiale et continue. La formation initiale a été très malmenée, mais la formation continue est sinistrée. Probablement, il sera d'ailleurs plus facile si nous emportons les élections, si la gauche emporte les élections, ce que je souhaite de tout cœur, il sera plus facile de relancer rapidement la formation continue que de restructurer rapidement la formation initiale. Il faudra rapidement relancer la formation continue. C'est la raison pour laquelle la Commission éducation d'Europe Écologie Les Verts, qui s'est réunie à Paris ce samedi et ce dimanche, a fait une proposition qui sera portée par notre candidate très prochainement, qui est, si nous gagnons les élections, si la gauche gagne les élections, eh bien, d'organiser dans l'été 2012, c'est-à-dire entre juillet et août 2012, 200 universités d'été gratuites, ouvertes à tous les professionnels de l'éducation sur tous les territoires, professionnels de l'éducation, qu'ils soient bien sûr professeurs, mais aussi personnels de direction, mais aussi personnels de l'éducation dans d'autres secteurs que l'éducation nationale, pour relancer le travail en commun, la dynamique, et pour relancer la motivation collective à se former et à se former plus. Et enfin, dernier élément, je terminerai par là pour aller vite et laisser la place au débat. Dernier élément, j'ai été plus vite dans la deuxième partie que dans la première, hein, vous voyez. Dernier élément, bien sûr, la formation à l'école n'a de sens que si elle s'inscrit dans la formation tout au long de la vie, et que si l'école n'est que le premier maillon d'une formation qui a vocation à perdurer tout au long de la vie. Nous sommes convaincus que l'école n'a pas le monopole de la formation, qu'elle est ce qui donne la formation de base, mais qu'au-delà de la formation scolaire, nous avons un très gros travail à faire pour que chacune et chacun puisse bénéficier de cette formation tout au long de la vie, et en particulier ceux et celles qui ont été les laissés pour compte de la formation initiale. Le grand paradoxe de la formation tout au long de la vie en France, c'est que ceux qui en bénéficient aujourd'hui sont pour l'essentiel ceux qui ont bénéficié de la formation initiale. Ce sont les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous portons dans notre projet l'idée d'un crédit formation qui soit enfin un crédit formation réel. Nous avons formulé l'idée d'un droit de 20 années complètes de formation dans une vie. 20 années complètes, alors il y a des gens pour lesquels c'est déjà fait, hein. Si vous rentrez à l'école à 3 ans, vous en sortez à 23 ans, vous avez vos 20 années complètes de formation. Mais, en principe, mais il y, y a des gens pour lesquels on en est extrêmement loin, extrêmement loin. Celui qui rentre à l'école à 4 ans et qui en sort à 16, aujourd'hui, ça ne lui fait que 12 ans, il lui en resterait 8 à prendre tout au long de sa vie, si on voulait qu'il arrive à 20 années complètes de formation tout au long de la vie. 8 à prendre avec un droit au retour dans l'emploi et un maintien de la rémunération. Ça coûtera un peu cher, mais je dirai un mot tout à l'heure sur le coût de ces mesures. Donc la formation tout au long de la vie, tout au long de la carrière, et une insistance toute particulière aujourd'hui sur les 16-25 ans. Après l'école fondamentale, les 16-25 ans, à qui on propose une multitude de solutions, mais qui pour certains sont dans une situation de très grande détresse. On parle, et on a raison, de la nécessité d'une allocation d'autonomie pour les étudiants, mais on oublie que les étudiants, ça ne représente que 40% de la population des 16-25 ans, qu'il y en a 60% à côté qui ne sont pas étudiants, que sur ces 60%, il y en a une bonne partie qui ne sont ni en formation ni en emploi, et que par rapport à cela, nous avons, me semble-t-il, un impérieux devoir de proposition. Je ne connais pas les chiffres pour la région Auvergne, mais pour la région Rhône-Alpes, en tant que vice-président chargé de la formation tout au long de la vie, j'ai regardé les chiffres du recensement, le dernier recensement dont nous disposons, c'est le recensement de 2007. Et en 2007, il y avait 950 000 jeunes de 16 à 25 ans en Rhône-Alpes, et sur ces 950 000 jeunes de 16 à 25 ans, il y en avait 97 000 sur 950 000, sans formation ni emploi. C'est-à-dire 97 000, 1 sur 10 des jeunes entre 16 et 25 ans ne sont ni lycéens, ni apprentis, ni étudiants, ni employés, ni salariés, ni même recensés et inscrits dans une mission locale. Ils sont nulle part. Et vous savez que quand ils sont nulle part, quand on est nulle part, on n'a pas de droits, parce que les droits en France vous sont donnés en tant que... Vous aurez le droit de ceci en tant que lycéen, le droit de ceci en tant qu'étudiant, le droit de ceci en tant qu'apprenti, le droit de ceci en tant que salarié. Mais quand vous n'êtes ni lycéen, ni salarié, ni apprenti, ni étudiant, que vous êtes chez vous à tenir les murs, comme on dit dans les cités, c'est-à-dire à ne pas faire grand-chose, eh bien vous n'êtes connu de personne. Vous êtes statistiquement dans ce qu'on appelle l'errance, hein, ce sont les jeunes dits en errance, et ce sont des jeunes qui pour nous constituent une priorité. C'est la raison pour laquelle figure dans notre projet cette phrase forte, mais très ambitieuse et très difficile à réaliser, pour laquelle il faudra une mobilisation absolument exceptionnelle. Pas un jeune de 16 à 25 ans sans une formation ou un emploi, pas un jeune de 16 à 25 ans qui ne fait rien. Alors, Rhône-Alpes, c'est 950 000 jeunes, 97 000 sans formation ni emploi, c'est-à-dire 10%. C'est énorme, 10%. Si vous regardez l'Espagne, c'est 45%. Mais, fort heureusement, nous ne sommes pas au niveau de l'Espagne dans ce domaine. Mais il ne faudrait pas que nous y arrivions. Hein ? Et 10% de jeunes sans formation et emploi, c'est déjà beaucoup. Je conclue. Deux éléments rapidement pour conclure. D'une part, un changement de modèle, d'autre part, la mobilisation de nouveaux moyens. Un changement de modèle, le système scolaire aujourd'hui, c'est une centrifugeuse. Ça tourne, et plus ça tourne vite, plus ça exclut à l'extérieur. Le système scolaire aujourd'hui, l'essentiel de son activité, malheureusement, je dis du système, pas des enseignants, hein, c'est de détecter et de dériver. Et ce système contraint une grande partie des enseignants à passer leur temps à faire en classe quelque chose de très désagréable, c'est-à-dire à évaluer pour savoir si l'élève ne serait pas mieux ailleurs. Hein ? Et on externalise le traitement des difficultés scolaires. On externalise. Avant, on avait des rasettes qui venaient vous aider à l'intérieur, puis on travaillait avec eux. Aujourd'hui, on externalise. Allez, vous allez là, puis d'abord en aide... en soutien, ceci, en cela, en aide, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis jusqu'où. Et puis on externalise. L'école finit par externaliser toutes les difficultés scolaires et à se vider de sa substance pour ne plus les traiter. Alors oui, il faut casser le modèle en centrifugeuse, d'autant plus que le principe de la centrifugeuse, vous savez, c'est qu'au milieu, plus ça tourne vite, plus c'est dépressif. Et moins il y a de choses au milieu. Et je crois que l'école est authentiquement dépressive parce qu'elle tourne sur elle-même en expulsant à l'extérieur d'une manière systématique tous ceux dont elle estime qu'ils ne sont pas à leur place. Alors oui, il faut changer la centrifugeuse. Je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre en place une centripéteuse, parce que le terme n'existe pas, malheureusement. Mais il faut un modèle intégrateur. Un modèle intégrateur fondé sur le respect de la différence, sur l'intégration, sur la capacité de travailler avec tout le monde dans des situations de mixité sociale, mais aussi, nous y sommes partisans, de mixité d'âge, de mixité générationnelle. Alors pour cela, il faudra des moyens. Oui, il faut mettre des moyens dans l'éducation et nous n'en avons pas honte. Nous ne sommes pas honteux de le dire, nous le revendiquons. Nous pensons que tout euro économisé dans l'éducation n'est pas un euro qui comble notre dette, mais qui creuse notre dette à l'égard du futur, et que cet euro économisé dans l'éducation, ce seront 10 euros pour réparer en termes de dégâts sociaux, de chômage, de délinquance, de difficultés sociales, de dépression, d'incapacité de s'inscrire dans un tissu culturel, d'incapacité de faire de sa vie ensuite quelque chose dans quoi on est véritablement heureux. Alors oui, nous pensons qu'il faut de fait, et oui, investir dans l'éducation. Nous proposons de créer 20 000 postes, mais en les ciblant dans un premier temps sur les zones difficiles et l'enseignement primaire qui ont beaucoup pâti ces dernières années. Et puis, nous proposons de réfléchir, bien sûr, à un meilleur usage de l'argent public, y compris au sein du système éducatif. Donc oui, il faudra trouver de l'argent. Nous pensons qu'il faut une réforme fiscale, vous le savez. Nous pensons qu'il faut arrêter un certain nombre de grands investissements publics inutiles et destructeurs de l'environnement. Nous pensons qu'il faut également taxer un certain nombre de bénéfices inutiles, qui sont des bénéfices artificiels d'ailleurs, qui se font en spéculant sur les prix au détriment des humains. Alors oui, c'est un véritable changement de modèle que proposent les écologistes pour l'école comme plus globalement pour la société, et c'est ce changement de modèle pour lequel il nous faut militer et lutter. Nous allons le faire et nous le faisons dans le cadre de l'élection présidentielle. Nous le ferons aussi dans le cadre de l'élection législative qui va suivre et qui est absolument essentielle, parce que dans ce cadre-là, effectivement, il va nous falloir avoir des députés capables de porter des changements structurels et pas simplement d'ajouter ou de poser quelques pansements sur un système moribond. Penser des changements structurels, c'est être capable de penser autrement les problèmes, de les poser autrement et de remettre un petit peu les choses à leur place et le pays sur ses pieds. Voilà, merci de votre attention. Et sinon, on doit rester à débattre jusqu'à demain matin 6h.
Voilà.
C'est ça ? Ça, ce serait une chance inouïe.
Donc, on va prendre une somme de questions et rapidement.
Non, des interventions. Moi, je vais plus parler.
Allez-y. Monsieur ?
Je peux apporter un témoignage par rapport à ce que vous avez dit.